Merci Seigneur. Bénissons notre Dieu et notre Roi pour sa grâce. Et nous voulons bénir Dieu pour tous les ministères de notre Église, n'est-ce pas? Chacun selon le don et le talent que Dieu lui a donné. Merci pour ce temps, Seigneur, de louange. C'est vrai que ton nom est au-dessus de tout nom, n'est-ce pas? Tu es le véritable. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ensemble ce matin. Voilà quelques temps que nous sommes en train d'étudier le livre d'Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens. Dans notre étude du mardi et de dimanche, lorsque nous étions encore tous présents à l'église, et mardi dernier, nous avons ensemble regardé l'une de ces leçons dans le livret « Saisis la vision de Dieu pour l'Église », n'est-ce pas? Et nous avons vu et nous sommes aujourd'hui très avancés sur le fait que Dieu a dit à l'apôtre Paul que dans les temps qui ont débuté avec l'avènement de Jésus, sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel, le plan de Dieu se déploie dans le monde par l'Église. Que Dieu a choisi l'Église comme le moyen de se révéler au monde, que ce soit le monde visible ou le monde invisible. Et que ce ministère a été confié à l'Église. Et l'apôtre Paul l'a dit dans l'Épître aux Éphésiens, il dit, c'est cette révélation que Dieu lui a donnée pour la révéler à l'Église. Et nous avions bien compris que l'Église dont Dieu parlait, c'est chaque église locale. Il parlait aux Éphésiens, mais au travers de l'église d'Éphèse, c'est à toutes les églises. Et nous avons vu au cœur de cet enseignement de l'apôtre Paul que l'église est l'appui et la colonne de la vérité. C'est-à-dire que la vérité de Dieu, Dieu a choisi de faire confiance aux hommes et aux femmes qui composent l'Église pour poser sa vérité sur eux. Et je donnais l'exemple des colonnes qui sont dans notre temple, dans ce lieu que nous appelons notre Église. Ces deux colonnes qui sont là, visibles, ne sont pas des ornements. Elles sont un peu comme des mi-porteurs. Si on s'amuse à détruire ces deux colonnes, il n'y a pas juste notre plafond qui va s'affaisser. Il y a le premier étage aussi. Il va s'affaisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'Église est l'appui et la colonne de la vérité, si l'Église n'est pas fidèle, c'est la vérité de Dieu qui prend un coup. C'est une grande responsabilité, mais c'est un privilège. Dieu donne à l'Église le privilège d'être la colonne et l'appui de la vérité. Dieu fait confiance aux hommes et aux femmes que nous sommes pour porter la vérité de l'Évangile. C'est une grâce, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul nous a rendus sensibles. Et plus encore, il nous a dit que Dieu a mis tous les moyens disponibles devant les chrétiens et les chrétiennes pour que l'Église soit capable de progresser dans cette mission, n'est-ce pas? Et que pour progresser, Dieu a donné des hommes et des femmes, des dons, des ministères. On l'a vu dans Éphésiens chapitre 4. Ces ministères sont là pour équiper chaque chrétienne et chaque chrétienne pour que chacun de nous fasse l'œuvre du ministère. Et on a vu que l'œuvre du ministère, c'était déjà de prendre soin de sa propre vie. D'essayer de continuer de grandir dans la connaissance de Jésus, ce qu'on appelle la maturité chrétienne, individuellement. Mais aussi de prendre soin de nos familles, n'est-ce pas? Parce que dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul parle des familles, de prendre soin de nos relations fraternelles, frères et sœurs, dans l'Église. Il dit, marchez d'un même pas, soyez unis pour la gloire de Dieu. Et que tous ensemble, nous avons été investis par Dieu pour continuer d'établir son royaume. Et c'est là le rôle de l'Église, continuer d'établir le royaume de Dieu. Et nous avons vu toutes ces vérités. Nous avons vu des applications très pratiques dans nos vies. Et au chapitre 6, là où nous sommes ce matin, il va nous dire que ce plan de Dieu, vu qu'il est tellement précieux, vu qu'il est tellement stratégique, celui qui se présente comme l'adversaire de Dieu, le sachant, cherche à contrecarrer le plan de Dieu, s'attaque au plan de Dieu, s'oppose au plan de Dieu. Or, ce plan de Dieu, par qui est-ce qu'il se déploie? C'est par l'Église. Donc, l'adversaire s'attaque à l'Église. Il se braque contre l'Église. Il met des embûches sur le chemin de l'Église. Il met des obstacles. Et l'apôtre Paul, dans cette révélation que Dieu lui donne, il veut que l'Église d'Éphèse et que toute l'Église soit consciente de cette réalité. Il y a un combat spirituel. Mais il dit, parce qu'il nous a déjà prévenus, il nous a déjà établi ces choses, c'est pas dans la peur que nous rentrons dans son combat, c'est dans la victoire. Parce que Christ est victorieux, n'est-ce pas? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et cette nuit, comme je le disais, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vécu un temps d'adoration et de louange comme ça. Alors que je m'apprêtais à me coucher, je me suis donné à ce qu'on fait un peu tout ça. On regarde dans un dernier moment son téléphone, soit pour mettre son horloge en marche, bon, bref. Et là, j'ai vu que mon frère est né dans notre groupe de réseau social qu'on a créé, avait mis un chant que je connaissais pas du reste, un chant de louange. Je me suis dit, ok, je l'écoute, et puis après, j'irai me coucher. Mais ce chant était tellement, les paroles étaient tellement fortes, et la mélodie m'a tellement emporté, ça faisait bien longtemps que je m'étais pas retrouvé tout seul au salon, en train de danser à la gloire de Dieu. Vous vous rendez compte, dans cette nuit, je me suis mis à danser, à célébrer notre Dieu. Et j'étais vraiment emporté. Je sais plus combien de minutes je suis resté en train de louer, danser comme ça notre Dieu. Et cela m'a fait du bien, dans le sens où parfois, je vous l'avais dit il y a quelques semaines, l'ennemi nous oppresse avec le doute, avec des choses, et de vivre un moment spirituel aussi fort comme le roi David qui dansait devant l'arche de l'Éternel. C'est là pour nous montrer que nous combattons dans la victoire et que cette victoire, c'est Christ qui nous l'a acquise. Donc, après avoir dit tout ça, au chapitre 6, verset 10, à partir du verset 10, l'apôtre Paul écrit, je le lis dans la version du Semeur, « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. C'est pourquoi endossez l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout après avoir fait tout ce qui était possible. Tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la vérité pour ceinture. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Jusque-là, la parole de Dieu. L'apôtre Paul qui a donné cette révélation sur l'Église, il dit à l'Église, vu l'aspect stratégique que Dieu a mis en vous, l'ennemi, il le sait. Vous savez que c'est pas d'aujourd'hui qu'il s'oppose au plan de Dieu. Quand Jésus est rentré dans le monde, Luc chapitre 4, il voulait déjà faire échouer ce plan. Et il a attaqué Jésus, il a tenté, mais Jésus a résisté. Il avait dit qu'il s'est éloigné de lui jusqu'à un temps favorable. Et on voit que plus tard, il reprend, parce que le texte nous dit, le texte biblique dit, que Judas s'est laissé influencer par Satan, et c'est comme ça qu'il a été le traître. Hein, la Bible dit que Satan rentra en Judas. Judas a ouvert cette porte et Satan l'a utilisé. Le combat spirituel est une réalité. Elle n'est pas une réalité mystique. Parce que souvent, on réduit le combat spirituel à une réalité mystique, c'est-à-dire qu'il faut que le chrétien, je sais pas, rentre dans des choses bizarres, machin, truc. Non. L'apôtre Paul nous dit que c'est un combat réel. Que Satan n'est pas juste l'icône du mal dans le monde. Il existe bel et bien. La Bible nous le décrit. Quand on fait ce qu'on appelle la théologie biblique, on rassemble un certain nombre d'éléments dans la Bible qui nous permettent de décrire qui il est. Il était cet ange qu'on appelait Lucifer, l'ange de lumière, qui était une autorité spirituelle que Dieu lui avait confiée. Et ce qu'on retire, la parole de Dieu nous dit que ce qui l'a animé, c'est qu'il s'est laissé emporter par ce privilège que Dieu lui a donné et il s'est pris lui-même pour l'égal de Dieu. Et ça lui a valu sa chute. Donc, quelque part, il connaît comment Dieu est capable de faire confiance aux gens. Il connaît le privilège que Dieu donne aux gens qu'il fait confiance. Et sachant que c'est à l'Église que Dieu a accordé ce privilège, bah, il se lève contre cette Église-là. C'est le prince du mal. C'est l'adversaire de ceux qui veulent faire ce qui est la volonté de Dieu. C'est le coupeur de route, le barreur de passage. Celui qui, coûte que coûte, empêche les hommes d'atteindre à Dieu. Hein? C'est le jaloux par expérience. N'est-ce pas? On a l'exemple de Job. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, t'as vu Job, franchement. Il m'adore, il m'aime. C'est quelqu'un qui vit une vie simple, mais une vie de reconnaissance et de sanctification. Et vous savez, quand on lit les livres de Job, la réponse du diable, le diable dit oui, oui, d'accord, d'accord, mais quand même, la manière dont tu as béni Job, c'est normal, c'est normal. Tout va bien chez lui, donc évidemment, il ne peut être que reconnaissant. Et vous savez le défi que l'ennemi suppose à Dieu. Mais Dieu, sachant que Job était solide, il lui dit, vas-y, je sais qui est Job. J'ai mis ma confiance en Job. Et Dieu permet, Dieu ne fait pas le mal, mais Dieu permet pour montrer au diable qu'il a tort, Dieu permet cette épreuve. Et Job va déguster cette épreuve, malheureusement. Mais, comme le dit un proverbe, c'est pas le début de quelque chose qui est important, c'est la fin. Et quand on lit la fin du livre de Job, on voit comment cet homme a été restauré, comment il a été victorieux, comment Dieu a eu raison de faire confiance à Job. Donc le diable, c'est son travail d'être là et de jalouser l'Église, de jalouser les enfants de Dieu. Ne nous méprenons pas. Le diable n'est pas juste une figure stylistique. Jésus a été confronté à Satan. Si Jésus n'avait pas été confronté à Satan, nous pouvons dire, ouais, mais ça, disons que le diable, en fait, c'est la représentation du mal, mais il n'a jamais existé lui-même. C'est le nom qu'on a pris pour donner un visage au mal. Non, c'est un piège. Satan existe bel et bien. La Bible nous en parle. Jésus a été confronté à Satan. Jésus a été confronté aux démons. C'est une réalité. En disant cela, on n'est pas des hommes moyenâgeux, on n'est pas des hommes archaïques. C'est ce qu'on veut nous faire croire. On nous fait croire que si nous croyons encore à l'existence des esprits du mal et au diable, bah nous sommes des attardés. Donc Jésus serait un attardé. Donc les apôtres seraient des attardés. Donc l'apôtre Paul qui écrit serait un attardé. Mais non. Et parfois, c'est là le piège. Minimiser la présence de cet adversaire. Il faut pas minimiser sa présence. Juste qu'il faut savoir que nous, nous sommes vainqueurs de lui. C'est la différence. Il n'est pas à minimiser, mais il n'est pas vainqueur sur le chrétien. Parce que celui qui est vainqueur, c'est le roi de gloire. C'est Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a triomphé du diable publiquement, hein, qu'il a cloué à la croix et qu'il a été victorieux. Donc, le Satan existe. Ce combat est un combat qui existe. Simplement que Dieu, d'après ce qu'on lit dans cette épître aux Éphésiens, Dieu ne souhaite pas que les chrétiens rentrent dans cette sphère mystique ou mystérieuse, hein, comme on peut le voir dans des films exotériques. Non, regardez bien. L'engagement dans ce combat n'est pas un engagement mystique, n'est pas un engagement mystérieux. D'abord, il va dire qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, dans ce combat contre le mal, c'est pas l'être humain qui est notre ennemi en premier. C'est pas un système politique ou social qui est notre ennemi en premier. Parce que ces systèmes-là, ils sont touchés par le péché. Donc, par définition, ils sont imparfaits. Mais celui qui est derrière parfois le mal qui nous attend, c'est l'ennemi. Parce que c'est l'influenceur. Parce que c'est celui qui oriente des choses. Parce que c'est celui qui même peut posséder des personnes pour les détourner totalement de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, dit, votre victoire, elle est acquise en Jésus-Christ. Et parce qu'elle est acquise en Jésus-Christ, Jésus vous a donné des ressources pour que vous soyez toujours victorieux dans ce combat. Voici les éléments de cette ressource que vous devez vivre pour que votre victoire soit manifestée régulièrement, fidèlement et constamment. N'est-ce pas? Et c'est ce qu'il va commencer à dire à partir du verset 14. Quand on lit à partir du verset 14, il dit des choses claires qui doivent nous encourager, n'est-ce pas? Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Première chose à savoir, notre vie de chrétien n'est pas toujours dans le combat spirituel. L'ennemi n'est pas toujours là à nous harceler parce que nous sommes constamment dans la victoire de Christ plus que dans le combat. Et ça, ça doit faire notre victoire et notre joie. Hein? Parfois, quand on prend le combat spirituel, c'est comme si de chaque journée, on est sous la pression de l'ennemi. Non, on est constamment sous la victoire de Jésus. C'est là la bonne nouvelle. Nous sommes constamment sous la bénédiction de notre Dieu. C'est là la bonne nouvelle. Sauf que, comme l'ennemi le sait, comme le dit le verset 13, il arrive des jours mauvais, où il s'en prend à nous, où il se braque contre nous, où il voudrait nous repousser, nous titiller, nous bousculer. Vous vous souvenez qu'il y a 2 semaines, c'est là, on avait parlé d'Azaph, psaume 73, ce serviteur de Dieu qui a été bousculé par le doute. Et derrière ce doute, il y avait certainement l'ennemi qui voulait le faire basculer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, dans ce doute qui me titillait et qui m'oppressait, je suis allé dans le sanctuaire de Dieu. Je suis allé prier dans la présence de mon Dieu et là, il a éclairé mon intelligence et j'ai compris. Et j'ai compris que j'étais en train de me faire embobiner et je me suis ressaisi. Et il finit en disant, car l'Éternel est le rocher de ma vie. Et je dirai les bienfaits de mon Dieu. Amen. Parce qu'il a pu remporter cette victoire. Et donc, quand on voit ce texte, le combat dans lequel nous sommes est un combat qui ne nous pousse pas dans le mysticisme, mais dans une qualité de vie. Puisqu'il dit, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Il dit, votre victoire, c'est que désormais, vous êtes des hommes et des femmes qui doivent être pétris, moulés, transformés, cultivés dans la vérité. Parce que le mensonge vient du diable. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est pour ça que Jésus dit, il vient le diable, mais il n'a rien à moi, parce que Jésus ne ment pas. En ce moment, on dit, ouais, mais Seigneur, c'est que franchement, nous, il nous arrive quand même quelquefois de mentir. Est-ce qu'en ce moment-là, on appartient au diable ou pas? Non, parce que Dieu sait que nous sommes faits de chair et que dans cette tente, nous sommes encore malheureusement sous le poids du péché et qu'il peut nous arriver de mentir. Par contre, ce que Dieu nous a donné comme clé de sortie dans les épîtres de Jean, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner à cause de Christ. Donc, s'il nous arrive de tomber dans le péché du mensonge, nous qui sommes des croyants, nous devons confesser et demander la force à Dieu d'aller de l'avant et de ne plus regarder là où nous sommes tombés. En même temps, pendant que nous sommes sur la terre, ça va peut-être arriver. Et moi, j'aime ce texte biblique qui dit, sept fois le juste tombera, sept fois l'Éternel le relèvera. C'est ça notre privilège. Par contre, quand nous tombons dans le mensonge, l'Esprit Saint nous le dit et nous le savons. Et donc, il nous donne la force de demander pardon, de nous repentir. Et parfois, il y a des mensonges que nous devons réparer. Parce qu'il y a des mensonges qui vont faire des choses qui vont laisser des traces. Et pour ces mensonges-là, il suffit pas juste de demander pardon à Dieu dans la prière. Il s'agit aussi d'aller demander pardon à la personne et d'essayer de réparer les choses. Voilà la victoire. Voilà la victoire de la vérité. C'est ça la force de la vérité. C'est ça la ceinture de la vérité. Celle qui nous tient et qui ne nous lâche pas et qui nous permet de tenir nos vêtements. La ceinture de la vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Dans une autre version, il dit la droiture. Parce que le thème justice et droiture sont les mêmes thèmes à peu près. La droiture, c'est celui qui marche selon la volonté de Dieu. Celui qui marche dans la lumière de Dieu. Celui dont la vie est exposée dans la lumière du Seigneur. Celui qui refuse l'injustice. Celui qui est droit et qui est loyal par rapport à la parole de Dieu. Oui, un chrétien doit cultiver la justice. L'injustice n'est pas de Dieu. Le chrétien, même si parfois il n'a pas la force d'agir sur l'injustice, parce qu'il est tout seul, parce qu'il n'a pas la force. Par contre, il doit pas être indifférent à l'injustice. Vous savez, on peut être indifférent à l'injustice. Ça veut dire que ça nous dit rien du tout. Et le chrétien ne doit pas être comme ça. Même si des fois, tu n'as pas la force, ni les moyens, ni l'intelligence nécessaire pour toi seul faire changer cette injustice, ton cœur ne doit pas rester indifférent. C'est ça ta force à toi. C'est de ça que parle ce texte. La justice. Que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis dans la société. Le chrétien est celui qui doit chercher ce qui est juste. C'est un défi constant, réel et continuel. Revêtez cette cuirasse. La cuirasse, c'est cet élément de cette armure du soldat romain qui protégeait son thorax contre les assauts de ses adversaires. Et c'est ça la justice. La justice nous rend impénétrables par rapport aux assauts de la société. Et vous savez qu'il y a eu tellement de sujets d'injustice ces derniers temps-ci. Que Dieu nous aide pour que le chrétien, pour que l'Église reste dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu. Il dit, mettez vos chaussures à vos pieds, la bonne disposition que donne l'Évangile de paix. C'est-à-dire marcher dans la sagesse de Dieu, comprendre la volonté de Dieu, demeurer dans le plan éternel de Dieu, comme il a dit déjà dans cette épître aux Éphésiens, n'est-ce pas? Demeurer dans le but de Dieu, racheter le temps, être rempli de l'Esprit, être zélé pour le service de Dieu, veiller à l'attitude de notre service à la maison de Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit dans cette épître aux Éphésiens, servir Dieu, faire le ministère, ça commence par toi. Les bonnes dispositions de l'Évangile, c'est toi déjà. Comment est-ce que l'Évangile continue à te faire grandir? Comment est-ce que la parole de Dieu continue à te faire marcher, à te faire croître, à te faire maturer? Comment cette parole t'aide à être dans la pensée de Jésus? Aimer ton prochain. Comment cette parole te conduit à aimer ton prochain? N'est-ce pas? Il dit, car le plus grand commandement, c'est quoi? C'est tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, on peut résumer l'évangile avec ce verset-là. Que Dieu nous aide. Dans ce combat, nous sommes victorieux parce que Christ nous a déjà mis sur ce chemin de la vie dans les bonnes dispositions que dans l'évangile de Paul. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Cette confiance en la parole de Dieu, cette confiance en Dieu, être fondé, être enraciné dans l'amour, sachant que Christ habite dans notre cœur par la foi, comprendre l'ampleur de l'amour de Dieu pour nous. Et tout cela, ça s'oppose au doute que Satan peut créer en nous par la vérité de l'Écriture. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il accomplit. La Bible dit que ce que sa bouche proclame, sa main l'accomplit aussi. Car lui, il est oui et amen. Ce qu'il dit résiste au temps et aux circonstances. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir d'une parole claire qu'il a donnée. Et le prophète dit, si Dieu t'a promis quelque chose qui est selon sa volonté, si elle tarde, attends-la, car certainement, car sûrement, il va le faire. Et c'est pour ça qu'il nous donne l'esprit, qui nous cultive cet élément du fruit de l'esprit qui est la patience et la persévérance pour attendre les promesses de Dieu. Amen. Notre victoire, elle est là. Dans le casque du salut, j'ai l'assurance de mon salut. Ce beau chant, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Saint m'a rejeté. C'est mon histoire. Ouais, c'est un chant fort. Quand nous le chantons, nous confessons que cette victoire, que notre salut est une solide assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Puisque c'est pas moi qui l'ai acquis, c'est Christ qui l'a acquis et Christ demeure. Il est éternel. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour moi et c'est lui qui vient en moi. C'est une certitude, le casque du salut. Et enfin, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui habite en nous avec sa richesse. Nous entretenir les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Et toute cette parole s'oppose au mensonge puisque c'est la parole de la vérité. C'est pour cela que le chrétien est invité à se laisser pénétrer par la parole de Dieu, méditer, remplir par cette parole, étudier cette parole pour que sa vie soit baignée dans la parole de Dieu. C'est à ce prix-là que dans des moments difficiles, l'esprit se saisira d'une parole qui est en toi et te permettra de vaincre l'obstacle, l'adversité. Le piège de l'ennemi. Si cette parole n'est pas remplie, comment résister? Regarde comment Jésus a résisté. C'est avec la parole. Luc chapitre 4. Chaque fois que l'ennemi envoyait une parole un peu sortie de son contexte, Jésus a répliqué avec la parole. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide, ma sœur. Que Dieu m'aide, moi aussi. Que nous soyons des amoureux de la parole de Dieu. Car c'est aussi une des armes que Dieu nous a données. Voilà ce que j'avais à cœur, selon Dieu ce matin, de partager avec l'Église de Dieu. Nous sommes cette Église, nous sommes dans le plan stratégique de Dieu. Dieu nous a investi de ressources pour accomplir le ministère et nous donne la réalité de ce combat dans lequel nous sommes victorieux et nous donne les éléments de cette ressource pour demeurer dans cette victoire. Que Dieu nous bénisse ensemble, que son Église reste vivante, victorieuse, et que l'adversité ne nous fasse pas peur, parce que nous savons comment la confronter, même comment la vaincre, cette adversité. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je laisse la parole à Stéphane.